Vous entrez dans l'univers de Voix Sauvage, le podcast natif qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toutes une ligne directrice commune, la nature pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, philosophie du vivant, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir leur histoire, leur parcours et leurs projets, en espérant vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix Sauvage. Bonjour Camille.
Bonjour Marion.
Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast Voix Sauvage parce que tu es ma première invitée en plus.
Écoute, donc, je suis honorée.
Super. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu aux sources de qui tu es. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir quel genre d'enfant tu étais et si tu es toujours sentie connectée à la nature justement.
Alors moi j'ai eu la chance de grandir à la campagne dans le nord-est de la France, donc dans les Vosges. Et c'est vrai que j'ai passé toute mon enfance vraiment très proche de la nature. Mes voisines les plus proches c'était les vaches.
Génial.
J'allais à l'école à pied, dans une petite école vraiment de campagne, on avait de la nature autour. Donc c'est vrai que, et puis mes parents nous emmenaient vraiment tout le temps en balade. Donc pour moi la nature c'était mon quotidien. Donc très tôt, en fait je me souviens pas avoir eu un jour un déclic par rapport à la nature, comme quoi c'était important dans ma vie, etc. Pour moi ça a toujours été partie intégrante de ma vie. Et voilà, donc j'étais déjà une enfant qui était consciente de plein de choses par rapport à la nature. Je me souviens, quand j'étais petite, j'écrivais des chansons sur la pollution pour sauver la Terre.
Ah oui, déjà, c'était à
très
quel âge?
Jeune. Je sais pas, ben, quand je savais écrire, hein, c'était, je sais pas, vers 8 ans. Donc voilà, j'écrivais déjà des choses sur ce qui rendait la Terre malade. En fait, j'en avais déjà conscience. Ouais, donc
c'est quelque chose que tes parents t'inculquaient, le côté protection de la nature. À l'époque, est-ce qu'ils te parlaient déjà de pollution
Non, je m'en souviens pas. J'ai pas des parents spécialement écolos. En fait, je le suis moi et j'essaie de leur transmettre beaucoup ça aujourd'hui. Mais c'était simplement le fait d'être au contact, je pense, de cette nature qui m'a tout de suite donné envie d'en prendre soin, en fait.
Est-ce que tu te souviens de ce qui te faisait vibrer ou rêver petite? Est-ce que tu avais déjà des choses que tu voulais accomplir finalement?
Alors, ce dont je me souviens, c'est que je voulais aider les autres. Donc, je parlais beaucoup d'humanitaire. J'avais envie de partir dans les pays en guerre pour pouvoir venir en aide aux gens qui étaient en détresse dans le monde. Je voulais être médecin sans frontières, mais je voulais en tout cas aller partir pour aider les gens. Et j'avais aussi ce côté maîtresse d'école. Je jouais beaucoup à la maîtresse d'école avec mon petit frère. Et ça ne m'a jamais quittée. Donc voilà, j'avais ces deux rêves. Et puis il y a la notion de liberté qui était très importante pour moi quand j'étais petite. Je voulais être libre. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, je pense, mais c'était là, c'était présent, la notion de liberté.
Donc tu as toujours eu ce côté finalement petite, très engagée finalement. Engagée pour la nature, mais aussi le côté altruiste pour les autres.
Oui, j'étais, c'est vrai, ouais, j'étais déjà engagée et j'étais un petit peu la seule de ma famille à être comme ça. Et c'est vrai que moi, je me sentais un peu incomprise parce que...
À contre-courant.
Oui, voilà, un peu à contre-courant. Et oui, j'ai passé toute ma scolarité un peu comme ça. Après, j'ai appris que bon, aujourd'hui, on met ça dans une case qui est le haut potentiel, l'hypersensibilité, etc. Alors moi, j'aime pas du tout ces étiquettes, mais aujourd'hui, en fait, quand je lis vraiment les caractéristiques de ces personnes-là, je, je me reconnais assez. Je me dis, ah oui, d'accord, donc c'est pour ça que j'étais comme ça, etc.
Ça tombe bien que tu parles de l'école aussi, qui n'a pas forcément été un moment très agréable pour toi. Parce que je voulais te demander justement, quelles sont les notions que tu regrettes qu'on ne nous apprenne pas à l'école ?
Alors, pour moi, l'école primaire a été très agréable. C'était vraiment des bons souvenirs, puisque voilà, comme je te disais, j'étais dans une école de campagne. On avait plusieurs niveaux dans la classe et je me sentais bien. En fait, j'étais une enfant quand même assez scolaire. Mais après, pour moi, ça a été compliqué. Le collège et le lycée, c'était vraiment dur, en fait. Je trouvais que c'était voilà, un endroit qui était dénué de bienveillance, qui était très cruel. On avait des surnoms assez horribles. C'était... Ouais, j'ai pas de très bons souvenirs de cette époque-là. Après, pour revenir à ta question, ce que je pense qu'il manque beaucoup dans l'école aujourd'hui, même si ça bouge, même si ça avance beaucoup, c'est tout ce qui est compétences socio-émotionnelles. Donc apprendre à se comprendre, à savoir qui on est, pourquoi on a telle émotion, comment on peut les gérer, quelles sont nos limites, quelles sont nos ressources, quels sont nos talents. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est intelligence intrapersonnelle. Et puis après, l'intelligence interpersonnelle, donc comment on fait pour vivre avec les autres. En fait, vivre avec les autres, on est obligé, mais comment on fait pour bien vivre avec les autres. Ça me semble vraiment important. Et d'ailleurs, à l'école, on passe un temps fou sur ça, sur le bien vivre ensemble. Donc voilà, c'est ces compétences-là. Tout ce qui est intelligence émotionnelle, ça pour moi, ça me semble vraiment important. Et les autres intelligences, parce qu'à l'école, on privilégie beaucoup l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence langagière. Mais finalement, il y en a plein d'autres. Il y a Howard Gardner qui en définit 8, je crois. Donc il y a l'intelligence naturaliste, musicale, kinesthésique,
etc. Tu fais appel aux différentes sensibilités des enfants, ou même des personnes en général.
Finalement. C'est ça. Et donc, je trouve ça très important, dès l'enfance, de comprendre qu'il y a tout ce panel d'intelligence. Et donc, c'est pas parce qu'en maths, on se sent un petit peu inférieur et qu'on ne comprend pas tout, qu'en fait, on n'est pas quelqu'un d'intelligent, parce qu'on a d'autres intelligences qui sont là, qui sont déjà développées, et ensuite, on pourra développer les autres intelligences. Mais souvent, on a des intelligences qui sont des portes pour développer les autres intelligences. Donc ça, je l'ai bien vu, moi, en étant enseignante. J'ai parfois des élèves qui sont très ouverts à l'artistique, par exemple, et pas du tout aux mathématiques ou aux français. Et par l'apport de l'artistique, on va réussir justement à faire rentrer l'enfant dans les apprentissages fondamentaux.
Tout est lié, finalement.
Mais tout est lié, mais il suffit d'écouter l'enfant et de voir... à quel endroit sa porte est ouverte. Donc voilà, donc ça c'est une écoute aussi qui me semble importante à l'école. Et puis évidemment le lien à la nature. Voilà, quand je vois aujourd'hui des écoles qui sont entièrement bitumées, sans un arbre, avec même parfois des morceaux de pelouse artificielle, je me dis c'est pas possible.
C'est ça, et puis surtout qu'on nous apprend en premier le français, les maths comme tu disais, les langues, mais les premières expériences qu'on va avoir en tant que, mais même préadolescent, adolescent et plus, c'est le rapport avec l'autre. C'est la première expérience qu'on aura, les premières déceptions, les premiers moments où tu perds le contrôle, tu sais pas comment gérer la situation. Donc c'est vrai que, enfin moi je suis d'accord avec toi, c'est la base finalement de qui on est, ce qu'on veut devenir aussi. Ensuite.
Et on apprend à se connaître en fait grâce à l'autre, parce que
exactement.
L'autre est toujours un miroir,
oui.
Donc ça c'est important aussi.
Et comment tu expliques justement qu'on se soit autant déconnecté de la nature aujourd'hui ? Déjà, est-ce que toi aussi tu partages ce constat-là ? Et ensuite, est-ce que tu aurais peut-être des pistes, comprendre comment on a pu en arriver là finalement ?
Alors après, comment j'explique ? Moi, je sais pas, je suis pas historienne, mais c'est clair que je le constate aujourd'hui que voilà, qu'on a été quand même déconnecté de la nature par rapport aux peuples qu'on appelle les peuples racines, qui sont vraiment qui se sentent complètement intégrés à la nature comme une partie de la nature et pas comme quelque chose en dehors de la nature.
Exactement.
Et je pense que c'est la modernité qui est arrivée et qui a On a développé ce mythe du progrès et du bien matériel comme une source de bonheur et de liberté, et qui a en fait fait qu'on ne voit plus la nature comme une source d'émerveillement, mais plutôt comme un objet à dompter et à exploiter sans aucun discernement, finalement. Mais après, je constate quand même que là, depuis quelques années, il y a un vrai désir de retour à la nature.
Oui, il y a une vraie mouvance qui se met en place, notamment chez les jeunes, surtout. Mm. On y revient petit à petit, oui.
Complètement. Et si, justement, au niveau de l'éducation, on repermet cet émerveillement, ce contact quotidien à la nature, je pense que on va créer un autre monde, ça, c'est clair.
Ouais, pour toi, c'est vraiment la base, finalement, pour la réintégrer en fait dans la vie de chacun, et qu'on se sente en faire partie, justement, c'est ça, et pas faire la dissonance entre les deux.
Bien sûr, parce qu'en fait, quand on observe la nature, on est au contact avec une intelligence qui est universelle, finalement. Et cette intelligence, elle était là bien avant nous, elle a beaucoup à nous apprendre, et en étant à son contact au quotidien, elle devient source d'inspiration pour nous. Donc forcément on s'émerveille, la nature elle donne, elle partage, donc quand on l'observe, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, puisque ça vient nous chercher dans l'espace le plus élevé de notre être, finalement, et là on a envie, on a envie d'en prendre soin, puisque c'est tellement précieux ce qu'on peut observer, que voilà, il n'y a pas de prendre soin s'il n'y a pas d'amour ou s'il n'y a pas d'émerveillement en amont, en fait. Donc si l'enfant a la chance d'être au quotidien dehors et d'observer ce qui se passe dans la nature, le cycle des saisons, les animaux, etc., tout ce qui se passe, forcément il a cette conscience écologique qui se développe, puisqu'il a envie de prendre soin.
C'est vraiment cette notion de « je protège ce que je connais, je protège ce que j'aime ».
C'est ça, je protège ce qui m'inspire, ce que j'admire, ce qui me semble incroyable, parce que dans la nature, c'est juste incroyable ce qui se passe.
Et puis c'est vrai que c'est aussi l'endroit où tous les filtres qu'on peut avoir dans la société, on est tellement formaté finalement depuis petit dans les écoles conventionnelles. On jette pas la pierre non plus, mais c'est vrai que c'est dommage. Et c'est vrai que quand tu es en pleine nature, en pleine forêt, on le ressent tous, on n'a plus ce filtre du regard à l'autre, de la peur du jugement, de quoi j'ai l'air, comment je marche, comment je m'exprime. C'est vraiment un endroit, je trouve... Elle nous accueille, elle nous prend dans ses bras, et on a juste à être là et à profiter de ce moment-là.
Exactement.
Pour continuer, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur tes itinéraires de vie et ton parcours, et ce qui t'a amené aussi à créer ce beau projet de l'école OZ. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours jusqu'au moment où tu as décidé de créer cette école OZ?
Je ne vais pas raconter tout mon parcours, mais...
À partir de là, comment... où ça t'intéresse,
oui,
je pense un peu plus tard.
Je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie qui a été un petit peu déclencheur de plein de choses, comme un réveil un peu d'une partie de moi exploratrice qui voulait explorer le monde. C'est quand je suis partie à 17 ans aux États-Unis, j'ai vécu un an là-bas, toute seule, donc je suis partie dans un lycée, c'était un système d'échange. J'étais accueillie dans une famille et j'ai passé un an là-bas, et c'est vrai qu'en revenant j'avais un petit peu ce virus du voyage. Je voulais aller explorer le monde, je voulais aller voir tous mes amis que j'avais rencontrés au Brésil, en Australie. Enfin, quand j'étais aux États-Unis, j'avais des amis brésiliens, canadiens, australiens, etc. Et donc à partir de là, j'ai eu comme ce virus un petit peu du voyage. J'avais quand même des parents derrière moi qui voulaient que je fasse des études, etc. Donc j'étais pas non plus lâchée comme ça dans la nature. Donc je suis allée à la fac. J'ai commencé d'abord une fac d'art plastique, et puis j'ai vite laissé tomber puisqu'en fait ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai pris donc des études, j'ai commencé des études de langue. Alors je parlais déjà anglais comme j'avais vécu un an aux États-Unis, donc j'ai fait une fac de Lettres, langues et civilisations étrangères en portugais brésilien. Donc c'est assez folklore puisqu'on était 5 dans la promo.
Tu l'as fait tout cette licence
à Montpellier. Et suite à cette licence, donc j'avais envie, j'hésitais beaucoup entre la fac de médecine et le concours pour être instit. Et puis finalement, voilà, j'ai décidé d'être instit et j'ai eu mon concours pour, parce qu'à l'époque, il fallait un concours pour rentrer dans la prépa. J'avais eu le concours à Carcassonne.
Le concours avant le concours.
C'est ça, oui. Donc, et en fait, là, j'avais quel âge ? J'avais 23 ans. Et je me sentais beaucoup trop jeune pour aller enseigner aux enfants. J'avais l'impression de rien connaître sur la vie.
Tu te sentais pas légitime
de... Exactement. Je me sentais pas légitime. Je me suis dit, mais je vais leur raconter quoi aux enfants ? Parce que j'avais déjà, je crois, la conscience ou l'envie de vouloir transmettre autre chose que les fondamentaux. Je voulais pas juste apprendre à lire, écrire, en fait. Je voulais apprendre aussi à être au monde, mais avec une... enfin, en étant soi-même. Et bon, par intuition, j'ai lâché mes études et je suis partie en sac à dos en Australie. Et voilà, et là tout a commencé. j'ai travaillé en Australie dans un camp de surf, donc j'ai appris le surf et j'étais photographe aussi là-bas. Donc là-bas, j'ai réalisé deux rêves. J'avais deux rêves, c'était apprendre à surfer et être photographe. Donc c'était bon, c'était réalisé.
C'est bon, t'as coché la case.
Et là, déjà, j'étais dans cette optique de... Ah oui, mais en fait, on peut tout réaliser. Tout est possible.
Si on y croit, ouais, si voilà, on met les moyens.
C'est ça. J'étais aussi dans un pays où on t'encourage quand t'as des rêves.
Et c'est ça, très culturel.
Ouais, ça a été vraiment un déclencheur pour moi parce que c'est vrai qu'en France, quand tu dis je veux être photographe ou je veux être actrice ou je ne sais quoi, on te dit mais attends, ma petite fille, il va falloir.
Tu vas d'abord faire des études et c'est après ça. On verra.
C'est ça. Et puis là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, juste en ayant la vision de quelque chose, d'un rêve, en fait, ça pouvait se faire. J'ai compris que la pensée était créatrice et. Et voilà, donc après je suis rentrée, j'ai pas repris mes études tout de suite en fait, j'ai continué dans la photo et j'ai fait plusieurs fois le tour du monde en fait avec mon appareil photo. Je rentrais pour être saisonnière et donc avoir un peu d'argent et hop, je repartais en voyage et là j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup de pays pendant 3 ans. Ça m'a beaucoup apporté et un jour alors au grand... Comment dire
désespoir.
Non, justement, ma maman était contente parce qu'elle a toujours eu peur que je reprenne jamais mes études.
Ah oui.
Et en fait, là, je suis rentrée et j'ai repris mes études. Donc, à Bordeaux, j'ai repris un master d'enseignement.
Donc, finalement, tu as toujours gardé quand même cette envie d'enseigner.
Oui, d'être enseignante, oui. D'être enseignante avec les enfants. Je crois que je l'ai vraiment depuis toute petite. Et là, donc, à 26 ans, je me sentais un peu plus légitime. Donc, j'ai repris mes études à Bordeaux. Et puis 2 ans après, je passais le concours d'instit que j'ai eu. Et puis voilà, me voilà enseignante dans la Drôme. J'étais dans la Drôme à l'époque. Donc j'ai passé une très belle année dans une école de rêve où il y avait la nature, etc. Mais ça, c'est quand on a des bonnes notes au concours, on peut choisir notre école. Mais après,
c'est vrai.
Le système n'est pas comme ça pour les autres années. Après, on va là où personne ne veut aller.
Oui. On commence souvent par là, en fait.
C'est ça. Donc, alors, ça dépend. Si on a des bonnes notes au concours, on a la chance d'être dans une école vraiment privilégiée. Donc, ça a été mon cas. Et ensuite, tout de suite après, donc, ça a été plutôt très difficile puisqu'on m'a mis dans une école, dans un ITEP, donc Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique. Donc, j'étais avec des enfants qui étaient en grande souffrance, qui avaient des gros troubles du comportement. Donc, c'était très violent. Et là, je me suis pris une grande claque parce que je me suis dit, mais j'ai pas du tout les outils pour travailler avec ce genre d'enfant. En fait, on m'a pas appris. Donc, malgré tous mes voyages et tout ça, je n'avais pas les outils nécessaires pour aider ces enfants. Et je me rendais compte, en fait, je me suis rendu compte, comme j'étais beaucoup créative et j'aimais bien l'art, j'ai posé mon cartable de maîtresse avec ces enfants-là et je me suis dit, ok. Fais juste ce que tu aimes avec ces enfants-là. Et je me souviens qu'en les emmenant dans un atelier, en créant, j'arrivais à créer du lien avec eux. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je me forme à l'art-thérapie. Et donc, j'ai demandé à l'Éducation nationale une disponibilité que j'ai eue. Et pendant 1 an et demi, je suis partie apprendre l'art-thérapie. Donc, l'art-thérapie, c'est...
J'allais te demander justement...
C'est un métier qui devient maintenant un petit peu connu. En fait, c'est une pratique thérapeutique qui utilise le processus créatif comme moyen d'expression et d'apaisement. Donc là, on n'est pas du tout sur une sur le langage oral, mais on est sur le langage du corps et de l'imaginaire. Donc en fait, on va être quand on crée, on est dans la spontanéité. Et quand on est dans la spontanéité, on est plus en lien avec notre vie intérieure, finalement. Et là, on peut bricoler avec nous-mêmes, avec notre histoire, etc. Donc, j'aimais bien cette idée. Après, il y a beaucoup de mouvements conscients, évidemment, mais j'aimais beaucoup cette idée voilà, d'avoir une autre voie que la parole pour se guérir et pour avancer sur son chemin de vie. Donc, moi, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien sur moi. J'ai commencé un travail personnel qui m'a beaucoup aidée. Et puis après, donc j'ai travaillé pendant 3 ans. Ah non, là, j'ai loupé une petite... D'abord, je suis revenue dans l'éducation nationale et pendant quelques années, j'étais enseignante. Et je me suis rendue compte que ce bagage-là de l'art-thérapie, ça m'apportait quand même beaucoup de choses pour les enfants, puisque je comprenais mieux voilà, certains enfants. J'avais le bagage psychologique qu'on ne nous donne pas à l'école pour être enseignante.
Ça se passait comment tes rapports avec les autres instituteurs? Parce que j'imagine que tu avais aussi peut-être une vision beaucoup plus différente que la leur, peut-être, de la façon d'enseigner, en plus avec cette formation en plus que tu avais de l'art-thérapie. Est-ce que parfois tu avais du mal à être comprise? Est-ce que tu te sentais finalement seule un petit peu dans ton travail à ce niveau-là par rapport à tes collègues?
Alors, ça dépend des écoles, mais alors à l'ITEP, donc avec les enfants qui avaient des troubles du comportement, oui, là, clairement, j'étais complètement l'hurluberlu de l'équipe. Mais après, dans les écoles, moi, j'ai quand même beaucoup de chance parce que je suis tombée sur des équipes qui étaient assez ouvertes, qui travaillaient ensemble, etc. Donc, j'étais plutôt bien, en fait, moi, dans l'éducation nationale, mais mon départ, c'était plutôt dans notre ordre, enfin, c'était autre chose, en fait. Et non, j'étais plutôt bien, en fait, dans les équipes pédagogiques. Ça se passait bien. Après, après, moi, j'ai quitté l'éducation nationale parce que j'avais envie de choisir, donc c'est toujours cette notion de liberté qui était très importante pour moi, j'avais envie de choisir mon lieu de vie. Et donc, moi, entre-temps, j'étais tombée amoureuse du Pays Basque, parce qu'on pouvait, voilà, on avait à la fois l'océan et les montagnes, et j'avais vraiment envie de vivre ici. Et puis, en fait, les syndicats m'ont très vite dit, Camille, tu pourras jamais aller vivre là-bas, enfin, peut-être d'ici 30 ans... Voilà, c'est très compliqué de vivre, enfin d'être muté dans cette zone. Voilà, c'est ça.
Tout le monde a envie de venir ici.
Voilà, et puis il faut être marié, avoir des enfants pour avoir des points.
Système de points.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai redemandé une disponibilité pour aller tenter ma chance ici en tant qu'art thérapeute. En fait, ça m'a été refusé. Donc j'ai tendance à écouter un peu les signes de la vie. Voilà, j'étais face à un gros dilemme. Partir de l'éducation nationale, ça veut dire perdre mon concours. Hein. Quand on part de l'éducation nationale,
tu peux pas revenir aussi facilement que ça.
Non, pas du tout. Il faut repasser le concours et c'est quand même pas un concours qui est très facile. Donc voilà. Ou sinon, je restais dans l'éducation nationale, mais voilà, dans un département qui était très agréable, mais voilà, j'avais envie d'autre chose. Et mon esprit aventurier a fait que j'ai choisi l'option la plus compliquée, on va dire, mais finalement la plus intéressante, je crois, pour moi. Donc je suis partie, j'ai démissionné de l'éducation nationale et là je me suis installée en tant qu'art thérapeute. Donc j'avais cette casquette-là, heureusement, pour pouvoir...
Ça m'a permis de rebondir attendant.
C'est ça. Donc, j'ai créé une autre entreprise et puis j'ai commencé à avoir beaucoup d'enfants très vite, d'enfants qui étaient en mal-être à l'école, beaucoup. Et donc je faisais pas mal aussi de pédagogie. Donc, j'avais mes deux casquettes, je faisais beaucoup d'aide aux devoirs, mais mélangé aussi avec l'art-thérapie, l'éducation émotionnelle, etc.
Et t'incluais la nature à chaque fois, forcément, ou pas dans...
Parfois, quand j'étais dans des lieux avec de la nature autour, oui, évidemment. Et puis, parfois, je ne pouvais pas. Mais en fait, je savais en m'installant à Biarritz que mon projet de vie, c'était de créer une école, c'était pas de rester art thérapeute. Ça me posait problème de rajouter des heures aux enfants. Ils avaient déjà des longues journées. Et après, ils venaient me voir. Et en fait, moi, c'était pas vraiment cette vision-là que je voulais nourrir. Mais plus, en fait, je me disais que la seule façon pour aider ces enfants-là, c'était qu'ils puissent être dans un autre environnement, plus bienveillant, en contact avec la nature, etc., pour pouvoir se sentir mieux. Donc, je m'étais dit, voilà, tu donnes 3 ans, tu commences à créer un réseau de parents, et puis tu vas parler de ton école, et de ce projet, etc. Mais, et voilà, et de fil en aiguille, j'ai rencontré la bonne personne, donc, qui est ma collègue aujourd'hui, Fanny, donc, qui est aussi enseignante. Et voilà, donc on s'est mis toutes les deux sur ce projet-là. Le plus difficile, ça a été de trouver un lieu, parce qu'un lieu avec la nature sur la côte basque, c'est compliqué, il faut s'accrocher. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est que c'est juste hors de prix. Donc voilà, jusqu'au jour où c'est arrivé, donc ça me conforte dans cette idée que voilà, quand on a une vision et qu'elle est juste, il faut persévérer et à un moment donné, ça s'ouvre.
Tout à fait. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous présenter cette école ?
Oui, bien sûr. Alors, donc cette école, nous, on dit que c'est une école éco-citoyenne. En fait, on n'avait pas envie de s'enfermer dans une pédagogie, même si, voilà, on trouve la pédagogie Montessori très intéressante, la pédagogie Freinet également. Mais on avait envie d'aller piocher dans plusieurs pédagogies et de faire de cette école plutôt une école à pédagogie active par la nature, avec et par la nature. Donc c'est une école qui accueille des enfants à partir de 3 ans jusqu'au CM2. C'est une école inclusive aussi, donc pour nous on avait vraiment à cœur de pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap. Donc là actuellement on en a un dans l'école, après on a pas mal d'enfants qui ont quelques troubles de dyslexie, on a des enfants au potentiel, hypersensibles également. Après, on a une assistante anglophone donc qui parle aux enfants en anglais toute la journée. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on voit là déjà au bout de 6 mois qu'il y a des petits loups qui comprennent tout à fait.
Surtout qu'à leur âge, c'est des éponges. Voilà. S'ils commencent déjà à entendre une autre langue, c'est super.
Voilà, c'est ça. Et on est surtout sur une pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on va partir d'un projet et ensuite on va se servir de toutes les matières pour réaliser ce projet. Donc là, le gros projet de l'année, c'est la création d'un potager en permaculture. Donc on va utiliser les mathématiques, les sciences, mais aussi le français, etc. pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Comme ça, ça a du sens en fait pour les enfants. On passe pas d'une matière à une autre sans aucun sens, mais voilà, on sait pourquoi on va apprendre les mesures. C'est parce que on doit mesurer les différentes parcelles du jardin, etc.
Ah, c'est un peu un apprentissage holistique finalement.
Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est transdisciplinaire. Et on est beaucoup sur une pédagogie de la coopération aussi. On s'est formé aux Amanins avec notre marraine Isabelle Peloux, qui justement apprend cette pédagogie-là, donc qui passe par des ateliers philo, qui passe par l'éducation émotionnelle, qui passe par la médiation de conflits. Voilà, il y a plein de belles choses comme ça, des jeux coopératifs pour apprendre à bien vivre ensemble justement. Donc voilà, donc nous on avait cette idée en fait, on a placé l'écologie vraiment au cœur de notre école, mais l'écologie intégrale ou l'écologie globale on va dire, c'est-à-dire qu'on parle d'écologie intérieure, donc apprendre à se connaître, à faire en sorte voilà de déployer
tout son potentiel,
tout le talent, exactement, tout notre potentiel. L'écologie relationnelle, donc apprendre à bien vivre avec les autres, et l'écologie évidemment environnementale, donc prendre soin du vivant, prendre soin de la terre. Voilà.
Justement, c'est intéressant parce que tu parlais de cette notion de coopération, Et je voulais te demander, donc toi qui as aussi travaillé dans l'éducation nationale, est-ce que tu vois une différence entre le rapport qu'ont les enfants au sein de l'école OSE, au contact de la nature, et le rapport qu'ont les enfants dans les écoles plus conventionnelles? Est-ce que tu vois une différence justement par rapport à ça?
Je ne sais pas si j'ai assez de recul parce que ça fait que 6 mois que l'école est ouverte, mais évidemment, enfin, on n'a pas de salle de motricité, donc l'espace de motricité, c'est la nature. Et je vois les enfants de 3 ans qui grimpent aux arbres, qui commencent à connaître voilà, le nom des petits animaux qu'on a dans notre ruisseau. Qui font des petites décorations très poétiques avec des petites fleurs, des petites écorces, etc. pendant la récréation, je me dis que déjà là c'est gagné, il y a déjà des choses qui sont acquises, des graines qui ont germé et en fait on fait rien finalement, on les laisse beaucoup en jeu libre dans la nature. Et voilà, c'est pas moi qui impulse ces créations-là, c'est pas moi qui leur dis de faire une cabane, de faire. Voilà, ça part d'eux et je vois que petit à petit, il y a vraiment un prendre soin qui s'opère et qui se développe. On le voit, c'est un drame dès qu'il y a eu une fourmi d'écrasée. Donc voilà, c'est. Je ne peux pas encore dire vraiment tous les bénéfices, mais déjà il y en a,
Oui, tu
enfin,
sens déjà des
évidemment.
prémices.
Oui, on a des enfants qui sont arrivés quand même dans cette école avec un mal-être assez important.
Déjà à leur très jeune âge.
Oui, il y avait des enfants qui ont été très abîmés par l'école. Voilà, qui avaient des problèmes d'énurésie, qui avaient eu des soucis d'humiliation, etc. à l'école. Et voilà, c'est des problèmes qui sont complètement enrayés aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont arrivés avec une grande agitation et qui sont beaucoup plus calmes au contact de la nature, qui reprennent des couleurs, qui sont arrivés tout blancs, tout cernés, et puis aujourd'hui qui sont pleins de couleurs. Donc oui, enfin, c'est sûr. En fait, pour moi, j'ai pas vraiment d'études scientifiques sous la main, mais bon, je sais qu'elles s'accordent toutes pour dire que ça améliore la créativité, le relationnel, la concentration, etc.
En fait, ça
Mais
pèse tellement que justement, ça améliore tout ce qu'il y a autour
c'est ça.
finalement.
Mais pour moi, c'est vraiment du bon sens. J'ai pas besoin d'aller m'appuyer sur des études scientifiques. C'est forcément du bon sens. C'est là d'où on vient, donc c'est forcément
Ouais, c'est vraiment revenir
bénéfique aux sources.
aux sources. Exactement. Et pourquoi tu as choisi ce nom Oz? Vous avez choisi avec ton associé ce nom Oz?
Écoute, c'est arrivé comme ça. Un jour, on travaillait ensemble, on cherchait le nom. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça, le mot ose.
Du verbe oser?
Oui, du verbe oser. Et tout de suite, à l'époque, on était trois sur le projet. Et puis, tout de suite, mes collègues ont dit, ben ouais, ose, c'est bien. Et là, j'ai un ami, donc j'envoie ce nom-là à un ami et il me répond, ah oui, comme on s'éveille ensemble. Et on s'est dit, bah oui, mais c'est exactement ça. Donc voilà, c'est venu comme ça, un jour, après plusieurs tentatives. Voilà, on ne savait pas si on mettait un nom basque, si. On avait plusieurs idées. Moi, à la base, quand j'étais toute seule pour le projet, je voulais l'appeler l'école des petits ruisseaux. Puisque les petits ruisseaux font les grandes rivières, j'aimais bien cette expression-là. Et puis en fait, voilà, après comme après j'ai été accompagnée d'autres personnes, je voulais pas rester sur cette idée-là et on a essayé de co-créer ensemble. Et voilà, je me souviens de ce jour-là où c'est arrivé Ose et puis on s'est mis d'accord là-dessus.
En général, tu sens que c'est le bon
Oui,
et on va jamais le changer,
ouais, c'est
quoi.
ça. Voilà, on a senti que c'était bon.
Et ça ressemble à quoi une journée type à l'école Oz? S'il y a des journées type, peut-être pas forcément non plus.
Alors, sur notre site internet, on a une journée type, mais c'est vrai que comme on est beaucoup à l'écoute de la nature, les journées type, parfois, elles sont totalement transformées.
Selon les saisons aussi,
Oui, selon les
j'imagine.
saisons. Par exemple, si on a eu beaucoup de pluie, là, comme dernièrement, si jamais un jour on a un rayon de soleil et qu'il faut aller s'occuper du potager, on arrête ce qu'on est en train de faire et on part s'occuper du potager. Voilà, si pendant la récréation on a trouvé un petit animal, bah voilà, on va faire autre chose parce qu'on va justement essayer d'aller explorer un petit peu la vie de l'animal, comment il s'appelle, etc. Donc on est quand même très souple. Après, on a quand même une base parce qu'on n'est pas une école démocratique et donc où les enfants ont vraiment la totale liberté de s'intéresser à telle ou telle chose, à tel moment, etc. Non, nous, on a quand même un cadre. Le matin, moi j'aime bien commencer la journée par un petit moment de centrage avec les enfants. Donc on fait une petite méditation, ça va être des petits automassages, un réveil du corps, voilà, un petit temps, voilà, pour se mettre bien en soi et pouvoir commencer la journée dans le calme. Après, on a des petits rituels, donc évidemment, bah, ça c'est comme dans les écoles, on a la date, on fait la météo, les enfants ont des responsabilités, donc tu vois, là on a la fusée, il y a des responsabilités, donc il y a un enfant qui, voilà, qui écrit des mots au tableau, il y a un enfant qui va arroser, il y a un enfant qui, voilà, donc on va s'occuper de la classe pour la rendre belle, faire en sorte que...
Toujours dans la coopération.
Voilà, exactement. On va souvent lire une histoire aussi en début de journée, on va chanter une chanson, etc. Et puis ensuite on va se mettre, là je te décris vraiment la journée dans la classe des 3-6 ans puisque c'est moi qui est enseignante, mais pour ma collègue c'est globalement la même chose, sauf qu'elle est avec des plus grands, donc elle est plus sur une pédagogie freinée avec des plans de travail où les enfants, voilà, ont un plan de travail pour la semaine et ils vont aller travailler en groupe, etc. Moi, ici, j'ai beaucoup de matériel Montessori avec les enfants. On va être plus sur des petits ateliers en autonomie voilà, pour développer les fonctions exécutives. Donc, voilà, c'est toutes des petites activités du quotidien pour développer la motricité fine, etc., le langage. Donc, voilà, il y a des moments comme ça de liberté. Puis, il y a des moments aussi avec des ateliers qui tournent. Donc, moi, je décide et je crée. Donc ensuite il y a la récréation. Donc la récréation c'est dans la forêt ou dans la cour, ça dépend, c'est au choix de chacun. Ensuite on rentre en classe. Parfois voilà, quand il fait beau, on va plutôt faire les ateliers ou les activités en forêt. On est quand même beaucoup mieux au grand air. Et puis ensuite il y a le repas. Donc le repas c'est pareil, en ce moment on commence à ressortir pour faire le repas dehors. Sinon, on est en tout petit groupe au repas, donc c'est très agréable. On est 8-9 enfants, donc on mange ensemble. Les enfants apportent leur repas. On n'a pas encore de cantine ici. Donc chacun amène son repas. Donc voilà, donc on va essayer d'être un petit peu dans la pleine conscience quand on mange pour apprécier vraiment et manger, être respectueux de son corps. Donc on fait un petit tour de table, on explique un peu tout ce qu'on a dans notre assiette pour développer aussi le langage, etc. Donc,
en fait, c'est chaque vraiment... moment de la journée est une opportunité d'apprendre de nouvelles choses, quoi, finalement.
Oui, exactement. C'est un moment aussi où on est moins dans les apprentissages fondamentaux, mais on va discuter, on va apprendre à mieux se connaître. Voilà, les enfants sont aussi différents à ce moment-là. Ce qu'ils me voient moins comme une maîtresse, mais plus voilà, comme quelqu'un qui partage un repas avec eux. Donc ça crée du lien. Ensuite, donc, on a un temps calme. Ça, c'est vraiment tous les jours après le repas du midi. Donc ça va être soit... ça peut être des postures de yoga, ça peut être un atelier philo, ça peut être des lectures d'histoire, ça peut être une relaxation, une méditation, des dessins en musique. C'est là où je reprends un petit peu les outils de l'art-thérapie, où on va avoir du dessin libre en musique, etc. Et puis l'après-midi, ça change en fait chaque jour. Le mardi, par exemple, on a des intervenants extérieurs qui viennent, donc qui proposent des ateliers poterie, potager, yoga aux enfants. Et du coup, les enfants s'inscrivent dans une activité pour une période. Donc ça, c'est le mardi. Le vendredi, c'est le conseil de vie collective. Donc ça, c'est les enfants qui organisent un conseil. Là, les enfants vont être forts de propositions, qui vont faire des propositions de projets. Ils vont aussi dire ce qui ne va pas à l'école, ce qu'ils aimeraient améliorer. Les tensions, les conflits qui n'ont pas pu être résolus aussi dans la semaine, c'est le moment où on va en parler.
C'est génial parce qu'à cet âge-là, on ne leur demande pas, en fait, finalement. On ne leur donne pas la parole là-dessus. C'est vrai que cette notion de délégué de classe qui participe au conseil avec les professeurs... C'est plutôt au collège, lycée, quoi. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu ça dans une école primaire à leur âge.
Voilà, c'est vraiment un conseil
ça les
avec
responsabilise de suite.
Oui, complètement. On a un bâton de parole et donc du coup chacun peut s'exprimer. Et ça amène aussi à développer la confiance en soi pour parler dans un grand groupe comme ça, pour exprimer ses idées. Pour ça, les ateliers
une des plus grandes souffrances de l'école.
Ouais,
on l'a tous vécu.
Ouais. Bah oui, la peur au ventre quand on va réciter la poésie au tableau. Voilà, moi, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il développe justement cette confiance et qu'il n'ait pas ça. Donc ici, à l'école, il n'y a vraiment pas de moquerie. C'est vraiment pour nous une grande violence. Donc c'est considéré comme une insulte ou comme quand quelqu'un tape. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas de se moquer. Donc petit à petit, on voit que les enfants prennent confiance à ce niveau-là. Et puis ensuite, le jeudi, l'après-midi, on a l'éducation émotionnelle. Donc là, c'est moi qui mène cet atelier et on va travailler sur les émotions, développer l'empathie, essayer de voir quels sont les besoins qui sont derrière chaque émotion. Donc là, moi, je me suis formée à la CNV et ça m'aide beaucoup en fait... à pouvoir transmettre ça aux enfants aussi, ce côté.
Ce qui veut dire la SNV.
La CNV, c'est la communication non violente.
Ah oui,
oui,
c'est
créée par Marshall Rosenberg. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un petit trésor. Et ça apprend vraiment beaucoup de choses. Ça nous aide à développer cette intelligence émotionnelle, justement. Qu'est-ce qui se passe en moi à tel moment, de quoi j'ai besoin et comment je peux faire avec ce qui se passe là pour ne pas être justement dans la violence avec l'autre, avec moi-même aussi, être dans le jugement, etc. Donc ça, petit à petit, là, on est en train de glisser vers ça avec les enfants.
Et le vendredi ?
Alors le vendredi, après le conseil de vie, on a soit grands jeux coopératifs, donc on fait des grands jeux d'école, avec des jeux coopératifs, donc là on va apprendre vraiment à faire ensemble. C'est pas des jeux où on joue chacun pour soi pour gagner, mais c'est des jeux où on joue en équipe pour faire gagner l'équipe entière. Donc il y a plein de jeux comme ça qui sont très intéressants et qui développent justement cet esprit de coopération chez les enfants. Ça c'est une semaine sur deux. Et quand on ne fait pas jeu coopératif, on a des intervenants, on a une chanteuse qui vient avec une chanteuse et un chanteur. Et ils viennent tous les vendredis et ils sont en train là de préparer un clip avec les enfants. Ils veulent tourner un clip à la fin de l'année dans la nature. Donc les enfants ont choisi le thème, il y a deux thèmes, c'est la nature et la famille. Et donc ils sont en train d'écrire des paroles, une chanson sur ces deux thèmes-là. Et du coup il y aura aussi une chorégraphie parce qu'ils sont chanteurs et danseurs et du coup voilà, on a vraiment la chance d'avoir ces intervenants là qui viennent bénévolement cette année et qui apportent vraiment une grande richesse à l'école.
Super, là on est à fond créativité jusqu'au bout.
Là on est dehors, les enfants vont faire des décors avec la nature pendant que d'autres sont en train d'écrire les paroles et pareil on est encore sur des intelligences multiples puisque chaque enfant choisit le groupe en fonction de son talent, de ses ressources à lui.
Oui,
donc l'enfant qui n'aime pas du tout écrire, qui n'a pas d'imagination.
Ça ne l'appelle pas, il peut faire autre chose, qui l'anime davantage.
C'est ça.
Et donc j'imagine que la plupart des parents qui ont inscrit leurs enfants à l'école OSS sont assez déjà sensibilisés à cette notion de protection de la nature. Dans quelle mesure tu penses que ton projet peut faire évoluer les mentalités par rapport à ça et à la sensibilité multiple des enfants ?
Oui, effectivement, on a beaucoup de parents, la plupart des parents sont déjà très engagés au niveau écologie, au niveau de la bienveillance avec les enfants et tout ça. Après, nous, on a créé l'école des grands à l'école, donc c'est pas une école pour les adultes, mais en fait c'est un système de conférences et d'ateliers tout au long de l'année qu'on propose aux parents. Donc les parents sont d'office inscrits quand ils inscrivent leur enfant à l'école, ils sont déjà engagés dans l'école des grands, donc ils reçoivent tout le planning des événements toute l'année, mais on ouvre aussi cette école des grands au public extérieur parce que ça serait un peu dommage, ça serait un peu enfermant de fermer nos portes aux autres. Donc On organise des conférences avec des intervenants toute l'année et des ateliers sur quatre thèmes. Sur le thème évidemment de l'éducation, mais aussi de l'écologie, de la santé et du bien vivre ensemble. Donc là, déjà cette année, on a eu justement une intervenante en CNV, en communication non violente, qui a présenté cette démarche aux personnes. On a eu plein de thèmes. Là, la semaine dernière, c'était sur la médecine chinoise. Donc, il nous apprend à avoir un regard plus global sur notre santé. Là, les prochaines, c'est la médecine tibétaine, puis l'orthopédagogie, comment faire les devoirs, même si nous, dans notre école, on n'a pas de devoirs, mais pour les autres personnes, comment faire les devoirs dans la sérénité avec les enfants, parce que c'est rarement un moment de bonheur. Voilà, donc on a créé en fait cette école-là aussi pour justement essayer d'être apprenant tout au long de la vie et de continuer d'avancer vers des modes de vie durables.
Oui, d'emmener les parents dans cette même mouvance, exactement. La famille entière finalement.
C'est ça, et nous aussi, parce que c'est pas nous qui faisons les conférences, c'est nous qui apprenons. Là justement, on se met en position d'apprenant. Et à chaque fois, c'est un bonheur d'apprendre sur différents thèmes. Les intervenants sont toujours vraiment très, très intéressants. Chacun spécialisé dans son domaine. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de mutualiser tous ces savoirs. Et c'est comme ça qu'on réussira à créer une société différente et meilleure. Et
bienveillante.
Et bienveillante et plus dans ses valeurs, justement, de coopération, d'entraide, d'écologie, etc.
Super inspirant. Pour terminer, j'ai lu dans un de tes articles que tu soulevais l'importance de se demander qu'est-ce qui nous a inspiré aujourd'hui. Alors toi Camille, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'inspire chaque jour.
Alors évidemment la nature. On vit ici quand même dans une région qui est propice à cette inspiration-là puisqu'on a l'océan et les montagnes et la campagne. Donc oui, la nature. Après, moi, je m'inspire beaucoup des sagesses ancestrales, des peuples racines dont je te parlais tout à l'heure.
Amérindiens.
Oui, indiennes aussi. Enfin, je fais beaucoup de yoga et du coup, la philosophie du yoga m'inspire beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de lectures sur ce sujet. Et puis... ce qui m'inspire aussi, c'est toutes les gens qui sont affirmés, qui réalisent leurs rêves, évidemment. Les femmes qui s'affirment. J'en rencontre de plus en plus et c'est super inspirant. Voilà, je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement humain. La méditation, tout ça, c'est des sources d'inspiration pour moi.
Et quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont toujours été les mêmes ?
Toujours été les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que la conscience écologique, elle a toujours été présente, comme je te disais, depuis l'enfance. Après, non, il y a des valeurs qui sont arrivées
à mesure de ton parcours.
La notion de bienveillance... on la comprend pas tous de la même manière et moi en fait j'apprends encore chaque jour ce que c'est vraiment la bienveillance, quelles sont ses limites, que la bienveillance ne veut pas dire absence de cadre, donc c'est cette bienveillance, mais ce qui m'intéresse dans la bienveillance c'est vraiment cette notion de veiller d'abord sur soi pour pouvoir veiller sur les autres ensuite, sinon c'est pas possible, et ce qui nous amène ensuite à veiller sur notre environnement. Voilà, donc ça, la bienveillance c'est vraiment quelque chose qui m'anime évidemment et sur lequel je suis amenée à travailler chaque jour. Et puis il y a aussi cette notion, je pense, qui est importante pour moi, c'est la notion d'authenticité. On a beaucoup de masques, l'ego est très présent chez l'humain vraiment en ce moment là dans notre société, Et justement, la nature, en fait, nous ramène à enlever ces masques et à enlever un petit peu toutes les couches d'un oignon pour aller retrouver le cœur, en fait. Et c'est ça que je cherche, en fait, chez moi et ce qui m'attire chez les autres aussi. C'est l'authenticité.
Y a-t-il une grande leçon de vie ou déclic que t'as apporté l'école Oz, cette petite aventure émergente, puisque ça fait que 6 mois finalement que tu t'es lancée dans ce projet-là, mais est-ce que t'en retires déjà peut-être comme une leçon de vie ou quelque chose que tu souhaiterais partager à nos oreilles sauvages?
Oh là là, il y a plein de choses. Je sais pas, c'est... En fait, c'est vraiment que les autres... les autres sont mon miroir. Et tu vois, je suis allée au bout du monde pour me connaître. Et en fait, moi, ce que je retire aujourd'hui, c'est que c'est bien, je suis allée au bout du monde. Donc oui, ça a été une richesse pour moi. Mais en fait, se connaître soi-même, c'est juste aller à la rencontre de l'autre. Et l'autre, il est juste à côté de nous. Et donc, parfois, on veut aller loin pour se trouver, alors qu'en fait, c'est juste la vie au quotidien. Voilà ce que l'autre peut nous renvoyer, toutes ces émotions qui ressortent. C'est un vrai apprentissage, quoi. Et là, on est vraiment au cœur de l'humain dans cette école, puisqu'on a les enfants, mais on a aussi les parents, parce qu'on est ouvert vraiment aux parents ici. Et ça remue, évidemment, mais... Mais c'est beau puisque c'est. Pour moi, on est vraiment en train de créer une mini-société où on apprend à bien vivre ensemble. Et c'est toute une aventure.
Ça, c'est sûr.
C'est ça.
Mais c'est un bel exemple en tout cas de ce qu'on peut créer tous ensemble de façon personnelle mais en coopération. Ouais, c'est un peu un nouveau prisme d'une société qu'on peut peut-être essayer de.
C'est ça, c'est la philosophie du « et » aussi, c'est pas « ou », c'est pas « on est soit ça », c'est plutôt « et ». Donc comment on fait pour faire ensemble? Donc tu es différent de moi, mais on va travailler ensemble. Donc tu as cette intelligence-là, moi j'ai celle-ci, et ensemble ça fait vraiment, on peut avancer. Donc oui, je dirais plus qu'ici on apprend le « et », le « faire avec ». Et ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose, qu'on est dans le monde des bisounours, pas du tout. On rencontre aussi de la violence dans cette école, on n'est pas du tout à l'abri.
On essaie toujours de trouver des solutions et
c'est ça.
Dans la bienveillance le plus possible. Il y a toujours cette envie-là, en fait, finalement, de
oui.
coopérer et de trouver des solutions à...
C'est
à chaque
ça.
Problème, et ça devient même c'est l'apprentissage de la vie finalement. Donc,
Et c'est revenir au pourquoi on a fait ce projet-là, c'est pour quelle valeur et sur quelle valeur on veut s'aligner, quel exemple on veut être pour nos enfants. C'est à chaque fois, on se le rappelle, mais pourquoi on est là? Ah oui, c'est pour ça. Donc hop, il faut faire un petit pas de côté et essayer de nourrir plutôt cette valeur-là. Donc. Ouais, mais c'est un travail de chaque jour, de créer un monde nouveau.
C'est ça. Et pour terminer notre conversation très inspirante, j'aimerais justement revenir un peu aux racines. T'en as parlé au tout début, mais qu'est-ce qui te fait sentir libre aujourd'hui, toi qui as toujours été en quête de cette liberté personnelle?
Ce qui me fait sentir libre, déjà, c'est d'être... d'être capitaine de mon navire, on va dire, même si je suis co-capitaine, j'ai personne au-dessus de moi pour me dire comment faire. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, de pouvoir m'écouter et utiliser mon intuition et pas forcément des règles que je trouve parfois absurdes. Donc ça, pour moi, c'est une grande liberté. Après, il y a des pratiques dans la vie qui me font me sentir libre. Je dirais le yoga, moi, ça m'apporte énormément de liberté. Ça m'aide à créer des nouveaux espaces, en fait, dans mon corps. Et donc, c'est symbolique. Ça ouvre d'autres espaces aussi sur d'autres plans. Je dirais aussi la nature, évidemment. le surf et la randonnée, pour moi, c'est des, voilà, c'est des activités qui me font vraiment sentir vivante et libre.
Super, merci beaucoup Camille pour cette conversation et j'espère à très bientôt.
Avec plaisir Marion, merci d'avoir pensé à moi.
Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Vous pouvez retrouver Camille sur Instagram @graines-de-baobab ainsi que l'aventure pédagogique Oz @école.oz. Voix Sauvage est un podcast fait maison, alors si vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute et à me suivre sur Instagram @voixsauvage.podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode.